Chapitre 25.
Nicolas ?
S'écria Richard. Tu l'as entendu dire ce nom ?
Oui, Nicolas, j'en suis sûr. Nicolas.
Une vague de désespoir déferla en Calanne, lui glaçant le cœur. Continue, ordonna le sourcier.
Je n'étais pas sûr que ces hommes parlaient bien de vous, le seigneur Hall et la mère inquisitrice, puisque l'officier n'avait pas cité de nom. Mais à entendre vibrer d'excitation les voix de ces deux brutes, j'aurais juré que c'était ça. Nicolas et Nadjari me rappelaient Lucian lors de sa première visite chez moi. L'information que je venais d'entendre me donnait une bonne chance de vous retrouver, je me suis donc immédiatement mis en chemin.
La brume matinale était désormais remplacée par un crachin désagréable. Calanne s'avisa soudain qu'elle tremblait de froid. Richard désigna l'homme que l'inquisitrice avait touché avec son pouvoir.
« C'est à lui que Nicolas a envoyé un messager, »
dit-il, la colère bouillonnant sous son calme de surface.
« Ce salaud est entré dans notre camp avec ses tueurs. Si nous ne nous étions pas défendus, désobéissant à la répulsion naturelle que nous inspire la violence, nous serions perdus, comme Marie-Lee. »
Owen désigna le prisonnier.
« Comment s'appelle-t-il ? »
« Je n'en sais rien et je m'en fiche. Il combattait pour l'ordre impérial, un système de pensée qui considère toute vie comme interchangeable, sacrifiable, dépourvue d'importance et fondamentalement insignifiante. Aux yeux de l'ordre, les individus ne comptent pas, sauf s'ils se sacrifient béatement pour un improbable bien commun. Oui, il luttait pour un rêve, anéantir la personne afin de mettre en valeur la communauté. » Selon cette philosophie, tu n'avais aucun droit d'aimer Marie-Lee. Toutes les femmes se ressemblant, tu aurais dû épouser quelqu'un qui avait besoin de ton aide. Ainsi, par le biais du sacrifice, tu aurais servi l'humanité tout entière. Owen, malgré les idées bizarres qu'on t'a fourrées dans le crâne, je crois que tu as compris le plus important. La véritable horreur, ce n'est pas la brutalité de l'ordre, mais son idéologie, car c'est elle qui justifie la violence et l'incite à prendre ton peuple pour cible. Cet homme n'accordait aucune valeur à sa vie et à son identité. Pourquoi devrais-je me soucier de son nom ? Je lui offre ce qu'il désirait le plus au monde, l'anonymat et le néant. »
Quand il vit que Calanne grelottait, Richard se détourna d'Owen, alla prendre le manteau de sa femme dans le chariot et le lui posa sur les épaules avec une incroyable tendresse. Apparemment, il ne pensait plus avoir grand-chose à tirer du récit de son empoisonneur.
« Richard, ce n'était pas le don qui te tuait, » dit Calanne, « mais le poison. »
Il restait du temps pour sauver son mari. À un moment, dans le chariot brinque-ballant, l'inquisitrice avait cru que toutes les options étaient épuisées.
« J'avais des migraines avant de rencontrer Owen, et j'en ai toujours. Quant à la magie de l'épée, elle m'a fait défaut avant que j'aie bu le poison. »
« Certes, mais ça nous laisse plus de temps pour trouver des solutions à tes problèmes. »
Fidèle à son vieux tic, Richard se passa une main dans les cheveux.
« J'ai peur que nous en ayons de plus graves, avec très peu de temps pour les résoudre. »«
De plus graves ? Et comment ?
Tu sais ce que veut dire le mot « Bandakar » ?»
Calanne tourna la tête vers Owen, toujours assis sur sa caisse, puis elle regarda de nouveau Richard, étonné par la colère qu'elle sentait bouillir en lui.
« Non, je l'ignore. »
En Haut-Daran, ce mot signifie « exilé ». Tu te souviens du livre que je traduis, « Les piliers de la création » ? Selon cet ouvrage, il fut un jour décidé d'envoyer en exil tous les trous dans le monde. En lisant ce passage, je me suis demandé ce qu'étaient devenus ces gens. Eh bien, nous venons de trouver la réponse. Le monde est désormais sans défense face aux citoyens de l'Empire Bandakar.
L'inquisitrice plissa le front.
Comment peux-tu être sûr que ces gens sont les descendants des Darans exilés ? Regarde Owen. Il est blond et ressemble trait pour trait à un Daran de pure souche. Et s'il te faut une autre preuve, pense qu'il n'est pas affecté par la magie. Il est peut-être un cas à part parmi son peuple ?
Calanne, dans une région isolée comme la sienne, un endroit coupé du reste du monde depuis des millénaires, un seul pilier de la création aurait transmis sa résistance aux dons à toute la population actuelle et en quelques générations seulement.
dans le cas qui nous occupe. Tous les Bandakar étaient étrangers aux dons.
À cause de cela, ils furent exilés dans l'Ancien Monde, ou plus précisément, dans le pays qui s'étend au-delà des montagnes et auquel un col infranchissable longtemps interdit l'accès.
Comment les gens de l'Ancien Monde ont-ils identifié les exilés? De quelle façon s'y sont-ils pris pour les réunir et les déporter dans une région donnée? Si un seul leur avait échappé, il aurait contaminé tout l'Ancien Monde?
Tu poses de très bonnes questions, mais pour l'instant, elles sont secondaires.
Richard se tourna vers Owen.
Je vais te demander de rester assis sur cette caisse pendant que mes amis et moi déciderons ensemble de ce que nous devons faire. Il convient que nous parlions tous d'une seule et même voix.
Owen apprécia visiblement cette façon de procéder, la concertation, car elle lui rappelait sa chère culture. Contrairement à Callan, il n'avait pas détecté la pointe d'ironie dans le ton du sourcier.
Toi, dit Richard à la marionnette de Callan, viens t'asseoir avec lui et assure-toi qu'il ne bouge pas.
Tandis que l'homme accourait, le sourcier fit un signe de la tête à ses compagnons.
Venez avec moi, nous devons parler.
Friedrich, Tom, Jensen, Kara et Callan suivirent Richard jusqu'au chariot où il serait hors de portée d'oreille d'Owen et du prisonnier. S'adossant au véhicule, Richard croisa les bras et regarda dans les yeux chacun de ses amis.
Nous avons de gros problèmes, et pas seulement à cause du poison que m'a fait boire Owen. Ce jeune homme est étranger au don. Il est comme toi, Jensen. La magie ne le touche pas, et tous les membres de son peuple ont la même caractéristique.
Jensen en resta bouche bée, comme si elle était incapable d'assimiler cette information. Friedrich et Tom semblaient à peine moins surpris qu'elle, et Clara plissait bizarrement le front.
« Richard, dit enfin Jensen, c'est impossible. L'Empire compte trop d'habitants pour qu'ils soient tous nos demi-frères ou nos demi-sœurs. »«
Ils ne le sont pas, répondit Richard, mais ils descendent tous de la lignée râle privée de magie. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Si tu as des enfants, ils seront comme toi et transmettront leurs particularités à toute leur descendance. Eh bien, il y a très longtemps, les gens comme toi étaient de plus en plus nombreux en Dara. Pour enrayer le phénomène, ils furent exilés dans l'Ancien Monde. De là, on les expédia dans ce qui se nomme aujourd'hui l'Empire Bandakar. Soit dit en passant, ce mot veut dire « exilé ».
Les grands yeux bleus de Jensen s'emplirent de larmes. Elle était si semblable à ces gens qu'on avait chassés de chez eux parce qu'on les détestait. Callan passa un bras autour des épaules de la jeune femme.
« Pourquoi cette tristesse ? »
demanda-t-elle.
« Tu te sentais seul au monde et voilà que tu te découvres des frères et des sœurs d'élection. »
L'inquisitrice n'eut pas le sentiment que son discours avait fait mouche. En revanche, Jensen semblait touché par la manifestation de tendresse.
« Tu dois te tromper !»
dit-elle cependant à Richard.
« Une frontière empêchait de franchir le col, mais si tous les Bandakar étaient comme moi, ce champ de force magique ne les affecterait pas. Bref, ils auraient pu entrer et sortir de leur pays à volonté. Au fil des siècles, certains seraient revenus dans le reste du monde. »
« Ton raisonnement est brillant, mais je crains qu'il soit faux, » dit Richard. « Tu te souviens de la statue quand tu as vu le sable couler latéralement? C'était de la magie et pourtant tu l'as perçue. »
« C'est vrai, » dit Callan.
« Si Jensen est un pilier de la création, comment est-ce possible ?»«
Oui, comment ?»
renchérit Jensen.
« Si je suis insensible à la magie, Richard, j'ai peut-être une étincelle de don tout compte fait, et si je n'étais pas vraiment un trou dans le monde ?»«
Jensen, » fit Richard avec un petit sourire, « tu es totalement étrangère au don. Mais tu as vu cette magie pour une raison très simple. Dans sa lettre, Nietzsche dit que la balise est liée au sorcier qu'il a créé, un homme depuis longtemps parti pour le royaume des morts. Cela implique que la statue était en partie animée par la magie soustractive, celle qui dépend du royaume des morts. La magie ne t'affecte pas, c'est entendu, mais tu n'es pas immunisé contre la mort. Avec ou sans le don, tu es lié à la vie et par conséquent à la mort. Voilà pourquoi tu as vu une partie de la magie du sablier. La partie relative à l'inexorable marche de toute vie vers sa fin. Les frontières n'étaient pas des champs de force magique, mais un lien très particulier où la mort dominait tout. Tenter de les traverser revenait à entrer dans le royaume du gardien, un séjour dont nul ne peut revenir.
Si un citoyen de l'Empire avait tenté de passer, il serait mort tout bêtement. Donc, les Bandakars étaient vraiment coincés derrière leur col.
Mais les bannissements ?
Objecta Jensen.
Il fallait bien que les condamnés traversent la frontière.
Non, ils seraient morts s'ils avaient essayé, mais il existait un passage permettant de contourner la frontière.
Il y en avait un aussi dans le Nouveau Monde, à l'époque où les trois pays étaient également séparés par des frontières. J'ai emprunté un de ces chemins, et je ne suis jamais entré dans le royaume des morts.
Et c'est exactement ce que nous décrivait tout à l'heure Owen, une piste étroite et dangereuse, mais négociable.
« Tout ça n'a aucun sens, » dit Jensen. « Si ton passage existe vraiment, pourquoi les Bandakars ne l'emprunteraient-ils pas pour quitter leur empire ? Ils auraient pu aller partout où ça leur chantait, et nul besoin d'être banni pour ça. »
Richard soupira et se passa une main sur le front. Il aurait aimé que sa sœur ne pose pas cette question, ça se lisait sur son visage. « Tu te souviens de la zone que nous avons traversée il y a quelque temps ? Celle où rien ne poussait ?»
« Oui.
Sabar en a traversé une semblable, un peu plus au nord. Il nous en a parlé un peu avant l'attaque. »«
C'est exact, »
dit Callan.
« Et cette bande de terre dévastée file droit vers le centre du désert, là où se dressent les piliers de la création. La nôtre aussi se dirige vers les piliers. En fait, elles sont parallèles. »
Richard hocha la tête, indiquant à sa femme qu'elle était sur la bonne voie. « Parallèles, oui. » dit-il, et placé des deux côtés du col qui donne accès à l'Empire. De plus, elles ne sont pas séparées par une très grande distance. En ce moment, nous sommes au milieu de la zone qu'elles délimitent.
« Seigneur Rall, »
intervint Friedrich,
« ça signifie que... »
Il prit le temps de chercher ses mots.
« Eh bien, une personne bannie de l'Empire empruntait le passage et débouchait... entre deux autres frontières qui formaient comme les mâchoires d'un piège. Elle ne pouvait aller nulle part, sauf... »
Friedrich s'interrompit et tourna la tête vers l'ouest.
« Vers les piliers de la création. »
« Oui, » confirma Richard.
« Mais... »
bafouilla Jensen. Elle prit une grande inspiration et se ressaisit.
« Veux-tu dire que c'était délibéré ? Quelqu'un a conçu ces frontières pour que tout individu banni de l'Empire finisse par échouer au milieu des piliers de la création ? Mais pourquoi ?
Afin de tuer tous les bannis.
Attends, laisse-moi comprendre. Selon toi, les gens qui ont exilé les trous dans le monde voulaient qu'ils meurent s'ils étaient par malheur chassés de l'Empire ?
Exactement, répondit Richard. Callan resserra frileusement les pans de son manteau autour de son torse. Après de telles chaleurs, comment pouvait-il faire si froid tout d'un coup ? Richard écarta une mèche de cheveux humides de son front et continua sa démonstration.
« D'après ce qu'Adi m'a expliqué un jour, une frontière doit avoir un passage afin de créer un équilibre des deux côtés. Un équilibre de vie, je veux dire. Selon moi, les gens de l'Ancien Monde qui ont déporté les Bandakars voulaient leur fournir un moyen de se débarrasser des criminels. C'est pour ça qu'ils leur ont révélé l'existence du passage. Mais ils ne désiraient pas que les trous dans le monde aillent partout. Criminels ou non, ils étaient insensibles à la magie et ne pouvaient pas aller et venir en liberté. »
Callan mit immédiatement le doigt sur le maillon faible de cette théorie.
« Les trois frontières auraient eu un passage, » dit-elle. Et même si les anciens avaient gardé secret les deux autres chemins détournés, un banni aurait pu en découvrir un et s'enfuir au lieu de déboucher au milieu des piliers de la création pour y mourir. Certains avaient donc une chance d'émerger dans l'Ancien Monde.
S'il y avait réellement eu trois frontières, dit Richard, tu aurais raison. Mais selon moi, il n'y en avait qu'une.
Seigneur Rall,
grogna Kara.
« Sauf votre respect, vous dites n'importe quoi. Au début, vous avez parlé d'une frontière latérale, orientée nord-sud, afin de bloquer le col, et de deux autres parallèles qui se dirigeaient vers l'est et l'ouest pour conduire vers les piliers de la création toute personne sortie de l'Empire par le fameux passage. Ça nous faisait bien trois frontières. »
Callan dut reconnaître que la mort de Sith avait raison. les bannis auraient dû pouvoir s'échapper par l'un des deux autres passages.
Il n'y avait pas trois frontières, insista Richard, mais une seule. Simplement, elle n'était pas droite, mais pliée en deux.
Il leva deux index, colla les pointes l'une contre l'autre et plia les doigts pour former une sorte d'arche.
La partie vide, entre la base de mes pouces, représente le col, et elle était scellée par la section nord-sud de la frontière. Les deux branches sont d'abord parallèles, mais leur course s'infléchit pour qu'elles se rejoignent et forment un cul-de-sac, la cuvette des piliers de la création.
« Pourquoi une telle configuration ?»
demanda Jensen.
« J'ai une hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Connaissant les positions philosophiques des Bandakar, les anciens se doutaient qu'ils n'appliqueraient pas la peine de mort et répugneraient sans doute à mettre les délinquants en prison pendant très longtemps. Cette mansuétude en faisait des proies idéales pour les criminels de tout poil. Pour se protéger, les Bandakar devaient avoir un moyen d'expulser de chez eux les individus dangereux. Avoir été chassés de Dara et du Nouveau Monde avait dû terrifier ces pauvres gens, d'où leur comportement grégaire presque caricatural. Les anciens, en fait les sorciers de l'Ancien Monde, ont dû les convaincre qu'ils seraient en sécurité au-delà du col protégé par une frontière infranchissable. Avec leur désir maladif de rester ensemble, les Bandakar ont dû trouver cette solution idéale. Ils avaient de bonnes raisons de craindre un nouvel exil, il faut le reconnaître. Tout le monde les rejetait parce qu'ils étaient insensibles à la magie, mais entre eux, à l'abri derrière leur col, ils se sentaient heureux et en sécurité. Aujourd'hui, la frontière a disparu et nous avons un gros problème sur les bras.
Jensen croisa les bras et releva le menton.
Maintenant qu'il y a bien plus qu'un seul flocon, tu redoutes une tempête de neige ?
Richard jeta à sa sœur un regard plein de reproches.
Quel est le but des rafles organisées par l'ordre, selon toi ?
La reproduction ?
Répondit Jensen.
Donner naissance à de plus en plus de trous dans le monde et libérer l'humanité de ta précieuse magie.
Richard ignora l'agressivité de la jeune femme.
Non, je parlais des rafles d'hommes.
Dans un haras, il faut bien des étalons, pas vrai ?
Richard prit une grande inspiration pour se calmer.
Tu te souviens de ce qu'a dit Owen ? Si ces hommes n'obéissaient pas au doigt et à l'œil, toutes les gardes de Bandakar seraient écorchées vives.
Et alors ? Obéir à quoi, Jensen ? À quel genre d'ordre ? Quelle peut être l'utilité tactique des trous dans le monde ? Quel parti pourrait en tirer l'ordre impérial ? La forteresse du sorcier !
S'écria Callan.
Exactement !
Confirma Richard. Comme je l'ai dit, c'est un gros problème. Zed défend la forteresse. Avec ses pouvoirs et la magie des lieux, il pourrait tenir indéfiniment. Mais que fera-t-il, ce pauvre vieillard décharné, si un jeune colosse qui se fiche de la magie l'attaque et le saisit à la gorge ?
Tu as raison, Richard,
dit Jensen.
Jagang détient aussi ce livre, Les piliers de la création. Il connaît l'existence des trous dans le monde et il a tenté de m'utiliser pour t'atteindre. Il a tout fait afin de me convaincre que tu voulais me tuer, puis il m'a conseillé de frapper la première, et il savait que la magie ne pouvait pas m'arrêter.
« Jagang est originaire de l'Ancien Monde, » rappela Richard. « Il devait avoir entendu parler de Bandakar. Chez nous, cet empire est totalement inconnu. Ici, il est peut-être légendaire depuis des milliers d'années, et Jagang est homme à explorer toutes les pistes. L'ordre a enlevé des Bandakar, et ils les menacent de tuer leurs femmes s'ils n'obéissent pas. Je crois que ces trous dans le monde ont pour mission d'attaquer et de conquérir la forteresse du sorcier. »
Callan sentit que ses genoux tremblaient. Si la forteresse tombait, les défenseurs perdraient leur dernier avantage, si minime fut-il. De très anciens et redoutables artefacts seraient entre les mains de Jagang, qui s'en servirait pour dévaster le Nouveau Monde. Dans la forteresse, on gardait certains sorts capables de tuer des millions de gens, y compris le fou qui les lançait, s'ils n'avaient pas les compétences requises. Ignare en sorcellerie, Jagang avait déjà prouvé qu'il se moquait de provoquer la mort de ses propres sujets, si ça pouvait lui valoir une victoire. À l'époque où il avait lancé une épidémie de peste, beaucoup de ses soldats avaient été frappés aussi. Et même si Jagang ne jouait pas les apprentis sorciers, tenir la forteresse priverait l'Empire d'Aran de ressources précieuses. Car Zed, en plus de défendre le complexe, avait mission d'y trouver une arme magique susceptible de mettre fin à la guerre en anéantissant l'ordre, ou au moins en le renvoyant chez lui derrière un champ de force qu'il ne pourrait plus jamais traverser. Si la forteresse ne tenait pas, le combat était perdu d'avance et toute résistance se révélerait futile. Sans le secours de la magie, les défenseurs seraient écrasés par les hordes de l'empereur. Rien ne pourrait les arrêter et la nuit de la tyrannie tomberait sur le monde. Kalan resserra davantage les pans de son manteau. Elle savait ce qui attendait les peuples du Nouveau Monde en cas de triomphe de l'ordre impérial. Pendant près d'un an, elle avait dirigé l'armée et combattu ses soudards. On eût dit une meute de chiens sauvages. Quand on avait de tels molosses au basque, on ne connaissait plus une minute de répit, car ils ne renonçaient pas avant d'avoir dévoré leur proie. L'inquisitrice avait traversé des villes dévastées par l'ordre, Ebinicia par exemple. Pendant des jours, les salauds de l'ordre avaient torturé, violé et tué. Au bout du cauchemar, il n'était pas resté un survivant. Nul n'avait été épargné sans distinction d'âge ou de sexe. Voilà le destin qui attendait tous les peuples du Nouveau Monde. Quand les soldats de l'ordre seraient partout, le peu d'activité commerciale qui restait serait réduite à néant. Toutes les entreprises feraient faillite et des milliers de gens perdraient leurs moyens de subsister. La nourriture se ferait rare, puis elle deviendrait impossible à trouver, même au marché noir. Incapables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, les hommes et les femmes perdraient tout ce qu'ils avaient laborieusement mis de côté au fil d'une vie de travail et d'efforts. Avant même l'arrivée des envahisseurs, la panique se répandrait dans les villes. Lorsque les soudards se montreraient, beaucoup de gens auraient déjà brûlé leurs maisons avant de se lancer sur les routes de l'Exode. En bon prédateur, Jagang s'emparerait de tout ce qui avait de la valeur et offrirait les terres conquises à ses plus fidèles serviteurs. Les vrais propriétaires seraient exécutés ou deviendraient des esclaves sur leur propre domaine. Quant aux fugitifs, ils survivraient tant bien que mal dans une nature dont ils ne connaissaient pas les règles. Dans ce désastre, où une seule devise tiendrait lieu de loi suprême, chacun pour soi et sauf qui peut, la plupart des gens deviendraient des vagabonds livrés à la cruauté des éléments. Affamés, ils tomberaient comme des mouches dès les premières rigueurs de l'hiver. Tandis que la civilisation s'écroulerait, la famine devenue universelle, des maladies se répandraient d'un bout à l'autre du Nouveau Monde. Les familles se désintégreraient, touchées à mort par le décès d'un des parents ou des deux. Livrés à eux-mêmes, les enfants seraient exposés à toutes sortes de mauvais traitements et de violences. Kalan avait déjà vu les ravages d'une épidémie. Elle savait ce qu'on éprouvait quand les gens mouraient par milliers autour de soi. Lorsque la peste s'était abattue sur Aedindril, des légions de malheureux avaient été frappées, comme par la foudre. Les vieux, les jeunes, les enfants, des milliers de braves gens avaient contracté le mal et connu une fin atroce, des jours et des jours de souffrance et d'agonie. Richard aussi avait eu la peste. Mais il était sans doute le seul à l'avoir contracté délibérément. Le prix à payer pour retourner auprès de Kalan. Il serait mort pour le bonheur de la revoir une dernière fois. Une époque où l'horreur avait dépassé toutes les limites. Kalan avait payé pour connaître le sens du mot « désespoir ». Quand elle en parlait, ce n'était pas avec l'arrogance des imbéciles qui n'ont rien subi de pire dans leur vie qu'une mauvaise grippe ou des ennuis d'argent. Ce jour maudit, elle avait saisi au vol sa seule chance de sauver Richard. Et ce faisant, elle avait invoqué puis libéré les carillons. Richard avait survécu, mais au prix d'une succession d'événements plus dramatiques les uns que les autres. À cause de Kalan, la frontière qui isolait Bandakar avait disparu. Et par sa faute, la magie risquait d'être à jamais rayée de la surface du monde. Et à présent, parce que l'Empire Bandakar n'était plus isolé, la forteresse du sorcier, le dernier bastion du monde libre, risquait de tomber entre les mains de Jagang. Kalan avait le sentiment d'être responsable de toutes ces catastrophes. L'univers était au bord de la destruction. À tout le moins, la civilisation risquait de disparaître, éradiquée par l'obscène idéal de l'ordre impérial. Officiellement, les idéologues de l'ordre prônaient le sacrifice des individus pour le bien du plus grand nombre. En réalité, ils se préparaient à immoler la raison sur le bûcher de leur délire. L'ombre de la folie s'étendait sur le monde et finirait par le recouvrir. Des âges obscurs se profilaient comme si on était à la veille de la fin des temps. Callan ne pouvait pas révéler à ses compagnons la profondeur de son désespoir. Elle avait l'image d'une battante qui ne renonçait jamais, il fallait s'y tenir, même si ce n'était plus qu'une façade lézardée.
Richard, nous ne pouvons pas abandonner la forteresse à Jagang.
Comme sa voix était calme et déterminée, à l'entendre, on aurait pu croire qu'il restait encore une chance de vaincre.
Nous devons empêcher ça.
Je suis d'accord, répondit Richard. Lui aussi semblait être gonflé à bloc. L'inquisitrice se demanda s'il avait lu dans ses yeux qu'elle ne croyait plus à leur chance depuis longtemps.
Commençons par le plus simple, Nietzsche et Victor. Il faut les prévenir que nous ne pourrons pas les rejoindre. Victor doit aussi savoir que nous soutenons son plan et qu'il le mettra à exécution sans nous attendre.
Ayant parlé souvent avec nous, il saura que faire.
L'heure d'agir a sonné, et Priska doit recevoir l'ordre de soutenir Victor coûte que coûte.
Nietzsche a également besoin d'être informé. Il faudra lui dire où nous allons et lui communiquer ce que nous avons découvert au sujet de la balise d'avertissement.
Richard préféra laisser dans l'ombre un troisième point. Si son don continuait à le tuer, il faudrait que Nietzsche trouve un moyen de le rejoindre très rapidement.
« Enfin, continua le sorcier, nous devons l'avertir que nous n'avons pas pu lire sa lettre en entier. En conséquence, il nous manque des informations sur ces « armes vivantes » que les Sœurs de la Lumière tentent de créer au bénéfice de l'Empereur. »
Tom, Jensen, Kara et Friedrich écarquillèrent les yeux de surprise car ils n'avaient pas lu la lettre en question.
« Au moins, » dit Callan. « Voilà un problème qui ne nous concerne pas dans l'immédiat. »«
C'est toujours ça de près, » approuva Richard.
Il désigna l'homme que Callan avait touché avec son pouvoir.
« Nous l'enverrons livrer nos messages à Victor et à Nietzsche. »«
Et après, que deviendra-t-il »
demanda Kara.
« Callan lui ordonnera de partir pour le Nord dès qu'il aura porté ses messages. Il devra trouver l'armée de l'ordre puis tenter d'assassiner Jagang. »
L'inquisitrice ne se faisait aucune illusion sur les chances de succès de ce plan. À voir leur tête, ses compagnons n'en pensaient pas moins.
« Jagang est protégé par des dizaines et des dizaines d'hommes, » dit Jensen. « Et il est entouré de gardes spéciaux. Les soldats réguliers ne peuvent pas l'approcher. »«
Tu crois que notre homme aura une chance de réussir ?»
demanda Callan.
« Non, aucune, » répondit honnêtement Richard. Il sera tué avant d'avoir atteint l'Empereur. Mais animé par le désir de t'obéir, il fera son possible pour exécuter ton ordre. Je parie qu'il échouera, mais j'ai bon espoir qu'il roussisse un peu les moustaches de Jagang, si tu vois ce que je veux dire. Après ça, l'Empereur devrait dormir d'un sommeil moins paisible. J'aimerais qu'il voie en chacun de ses hommes un assassin potentiel et qu'il se demande tous les jours qui tentera de le tuer. Nous allons lui pourrir un peu la vie, Callan. Dans ses cauchemars, il cherchera à démasquer le traître qui se cache sous les traits amicaux de ses plus proches fidèles. »
L'inquisitrice approuva ce plan d'un hochement de tête. Richard étudia un moment les visages tendus de ses compagnons, anxieux de savoir ce qu'il avait encore à dire.
« Passons à l'essentiel maintenant. Nous devons gagner la forteresse et prévenir Zed. Il faut faire au plus vite, car Jagang a trop d'avance sur nous. Il prépare son attaque depuis longtemps, et nous ne nous étions aperçus de rien. Qui sait quand les trous dans le monde partiront pour le Nord? Nous n'avons plus une minute à perdre.
« Seigneur Hall, »
intervint Kara,
« vous devez aller chercher l'antidote dans le délai imparti. Si vous vous mettez en route pour la forteresse... »
La mort de Sid sursauta.
« Oh non, une minute. Vous n'allez pas m'expédier de nouveau en mission. Pas question de vous quitter à un moment si délicat. « Je ne veux pas en entendre parler, c'est compris, et je n'irai pas, point final. »
Richard tapota l'épaule de son ami.
« Je n'avais pas l'intention de t'y envoyer, mais merci de t'être porté volontaire si spontanément. »
Kara croisa les bras et foudroya son seigneur du regard.
« En revanche, » continua Richard, « nous ne pourrons pas aller dans l'Empire avec le chariot, la piste est bien trop étroite. »
« Seigneur Hall, dans un pays sans magie, vous aurez besoin de tout l'acier disponible, et
j'essaie, Tom, »
coupa Richard, amusé d'avoir découvert un clone masculin de Kara.
« C'est à Friedrich que je pensais. »
Il se tourna vers le vieil homme. « Tu prendras le chariot. Un vieux gentilhomme très digne n'éveillera pas les soupçons. Personne ne te fera d'ennui et tu pourras franchir les lignes ennemies sans craindre d'être enrôlé de force dans l'armée. Acceptes-tu cette mission, Friedrich ?» Le vieil homme se gratta le menton.
« Eh bien, on dirait que je vais finir par devenir une sorte de garde-frontière sur le Tarn. »
Richard échangea un sourire avec son nouvel ami.
« Friedrich, une frontière de plus a disparu. Avec toute l'autorité que me confère mon titre, je te nomme garde-frontière et je te demande d'aller immédiatement prévenir Z du danger qu'il menace. » Friedrich se tapa du poing sur le cœur. Pour un daran, il n'y avait pas de plus fort serment de loyauté.